Merci à toute l'équipe Louange de nous avoir amenés dans la présence de Dieu. Et où Dieu se manifeste, la Bible parle que Dieu se manifeste de différentes façons. Le Saint-Esprit qui est imagé, soit par ce feu, cette passion, ce feu de Dieu, soit par cette vie, ce fleuve, cette rivière du ciel, ou soit par le vent de son esprit. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit est là vraiment pour nous toucher. On va prendre un passage ce matin directement dans Jean 4 qui va nous lancer vraiment dans ce que Dieu veut nous dire, vraiment ce que j'ai sur mon cœur. C'est un passage qui nous parle de Jésus qui est vers le puits en Samarie. Et je vais prier ce matin avant de prêcher pour que Dieu nous donne une pensée renouvelée, pour qu'on puisse saisir les choses comme lui les voit et pas comme on a peut-être toujours compris jusqu'à présent. Et pour ceux qui vont découvrir ce récit, que ça soit vraiment ce moment qui a été écrit, c'est un réel moment que Jésus a vécu sur terre, et on a la chance, ou plutôt la bénédiction, que ces faits ont été écrits et qu'on a le livre aujourd'hui, la Bible, et que vous puissiez découvrir vraiment le cœur de Dieu par rapport à ça. Et je vais prier pour que Dieu nous parle. Et je te prie, Saint-Esprit, de continuer d'agir, Seigneur, ce matin, de continuer avec le feu de ta passion, de ta présence, avec le vent de ton esprit, avec cette rivière de vie, avec simplement cet amour et cette présence. Je te prie de venir toucher chacun dans cette salle aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie vraiment de révéler, Seigneur, ce que ton cœur veut nous dire. Donne-nous ta façon de voir, ta compréhension. Je veux libérer un esprit de révélation. Et ôte, Seigneur, cette poussière qu'on peut avoir sur nous à force peut-être d'avoir entendu les choses ou de les comprendre d'une certaine manière. Et je te prie, Seigneur, de venir vraiment te révéler à chacun, vraiment selon ton cœur. Et je prends autorité contre tout esprit de distraction et qu'on puisse avoir le focus sur toi, Seigneur. Viens toucher les cœurs, Seigneur, par ta présence. Amen. Et dans le passage de Jean 4, Jésus est en déplacement. Il quitte la Judée et il se rend en Galilée. Habituellement, c'est environ à 4 jours de marche, si on marche 40 km par jour. Et si on comptait ses pas par jour, ça fait entre 50 000 et 60 000 pas par jour que faisait Jésus. C'est un boss, hein, il ferait exploser toutes les statistiques de toutes les montres, smartphones et compagnie. Et si tu avais à cœur de suivre Jésus complètement, ça te rapprocherait sûrement de lui, parce que tu demanderais qu'il prie pour les cloques à tes pieds. Donc 4 jours de marche pour aller de la Judée en Galilée. Et ça, c'est en évitant la Samarie. Vu les tensions qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains à cette époque, ça ne se faisait pas de passer par là. Par contre, ce qui est bien, c'est que le GPS de Jésus, lui, a montré un itinéraire plus court. Vous avez déjà vu en voiture, tout à coup, vous savez, vous pouvez économiser 30 minutes ou une heure en passant par là. Parce que Jésus, il n'avait pas coché les options éviter les autoroutes, éviter les péages et éviter la Samarie. Du coup, il a pu gagner, il gagnait carrément un jour. Parce que Jésus, il était au-dessus de ces querelles de clochers, si je peux me permettre. Et voilà qu'il va directement couper par la Samarie. Et quand tu marches autant, et vu que la Samarie, c'est légèrement plus au sud que la Brévine, il fait chaud. Surtout que la Bible nous dit qu'il est midi. Il est midi, donc il est en plein cagnard, comme on dit. Et comme on dit chez nous, il doit faire soif. Et ça tombe bien parce que Jésus, il voit un puits qui est bien connu, c'est le puits de Jacob, et il va faire un arrêt boisson. Et d'ailleurs, le verset 8 de ce chapitre de Jean 4 nous dit que pendant ce temps qu'il est arrêté vers le puits, les disciples ils sont allés à la ville pour acheter à manger. Sûrement qu'il y avait un magasin ou une station ouverte, mais en tout cas, il est mis qu'ils sont allés acheter à manger à la ville. Et alors qu'il arrive vers ce puits, il y a une femme qui est déjà là, en train de puiser de l'eau. Et il est mis dans Jean 4, verset 6-7, que Jésus est fatigué par le voyage. On le serait peut-être à moins, hein, avec 50 000 pas. Et il s'assoit au bord du puits, et il est à peu près midi. Et une femme de Samarie vient chercher de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Et alors que Jésus a demandé à boire à cette femme de Samarie, elle s'étonne qu'il ose lui parler, parce que ça ne se faisait pas entre les Juifs et les Samaritains, et elle est assez cache. Elle lui dit « Comment, toi qui es juif, toi un juif, tu me demandes à boire, moi un Samaritain ?» Il y aurait de quoi dire, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui d'expliquer toutes ces tensions qu'il y avait. Mais Jésus lui répond au verset 10, « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit « Donne-moi à boire. » Sinon, c'est toi qui me demanderais à boire et je te donnerai une eau pleine de vie. » Et là, quand Jésus parle, ce n'est pas juste une réponse. Il y a un amour, il y a une onction, il y a, qui fait que l'atmosphère va commencer à changer. Et alors qu'elle avait été directe avec lui, tout à coup, elle va lui dire au verset 11, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où est-ce que tu veux la prendre ?» Et là, le ton a changé. C'est plus « Et toi, un juif ?» mais elle va lui dire « Seigneur ». Ça, c'est une petite intermède. Ah non. Et lui, il va lui dire, « Si tu savais, tu me demandes à boire, et moi, je te donnerais vraiment une eau pleine de vie. » Et là, il va aller direct, au-delà des barrières de clivage entre Samaritains et Juifs, au-delà de la culture qui ne se faisait pas forcément qu'un homme parle avec une femme qu'il ne connaissait pas, mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il va aller au-delà du monde naturel, et du puits et de l'eau physique à boire. Il va parler d'autre chose, d'une eau pleine de vie, d'une eau qui amène la vie spirituelle, la vie du ciel. Et le cœur de la Samaritaine commence à s'ouvrir, et elle réalise qu'il est en train de parler d'autre chose. Mais elle ne capte pas vraiment. Elle reste au niveau physique et naturel. Elle dit, mais tu n'as rien pour puiser cette eau pleine de vie. Où veux-tu la prendre ? Donc elle va continuer toujours en parlant au niveau terrestre, du monde naturel, elle ne réalise pas qu'il parle d'autre chose. Et au verset 12, elle dit, mais est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre ? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau du puits. Et c'est le puits que Jacob avait creusé. Et d'ailleurs, on y reviendra plus tard. Et Jésus va lui répondre, et c'est pour ça que je prêche là-dessus ce matin, et il dit, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Et c'est une révélation, elle en reviendra plus tard. Mais pour rester dans cette situation, la femme commence à s'ouvrir. Et du coup, c'est elle qui a soif. Et au verset 15, elle va lui dire, « Seigneur, donne-moi de cette eau, alors j'aurai plus soif. » Et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Elle prend ça encore au premier degré. Elle pense qu'elle n'aura plus jamais soif physiquement, puis qu'elle n'aura plus besoin de venir chercher de l'eau, ce qui est pratique pour elle, parce qu'elle devait, si on regarde, ça lui coûtait de venir chercher de l'eau à cet endroit. Le puits, il est environ, si on regarde, à 2,5 km de la ville. Imaginez l'aller-retour, 5 km juste pour aller chercher une cruche d'eau pour boire, et puis s'il fallait d'autres choses, plusieurs fois peut-être qu'elle devait aller en chercher. Et elle croit que Jésus peut lui donner une eau qui va changer sa vie. Mais elle pense encore au niveau naturel, de son confort de vie. Et là, Jésus, et ce ne sera pas mon propos ce matin, mais il va commencer à parler dans la vie de cette femme et lui dire des choses qu'on ne pourrait pas savoir autrement. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. On appelle ça une parole de connaissance. Il va lui parler des 5 maris qu'elle a eus, que l'homme avec qui elle est, ce n'est pas son mari. Et là, la femme qui, pour la première fois, lui a adressé la parole en disant « Toi, le Juif !» Puis ensuite, au fil de la discussion « Seigneur !» Là, elle va lui dire « Je vois que tu es prophète. » Vous voyez l'ouverture ? Et il va continuer de lui parler au-delà de la querelle de clochers entre Samaritains et Juifs. Et au verset 23, elle lui dit « Mais l'heure vient !» Et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que Dieu recherche. Et c'est ça, cette eau pleine de vie qui nous donne d'adorer le Père. Alors qu'on est touché par cette eau de vie, on va vraiment pouvoir l'adorer vraiment par l'esprit. Et on va aller au-delà du naturel, au-delà de la connaissance, on va l'adorer vraiment spirituellement. Et ce n'est pas juste une option, mais c'est ça, être adorateur. Et c'est ça que Dieu recherche. Et c'est fort parce que Jésus est en train de lui montrer que cette eau, ce n'est pas l'eau physique du puits, mais c'est une eau de l'esprit qui abreuve notre être intérieur. Et c'est bien plus que de la religion. C'est ce puits de Jacob. C'est un lieu ancien qui était chargé d'histoire. Et Jacob, ancêtre des Israélites, avait donné ce terrain à son fils Joseph. Ce puits, quelque part, c'est un symbole d'héritage. Jacob, un père de la foi ancienne. D'ailleurs, c'était justement à ce propos que les Samaritains et les Juifs se divisaient, parce que les Samaritains revendiquaient que Jacob était aussi leur père. Mais ce puits, c'est un lieu d'héritage, de tradition, je dirais même de religion. Et c'est pour ça que la femme avait dit à Jésus, au verset 12, « Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits ?» elle s'accroche encore à sa tradition religieuse. C'est comme si elle lui disait, hey, « Eh, mais t'es qui? T'es au-dessus de notre tradition, de notre religion ?» Et Jésus va lui parler d'une source de vie qui est bien plus que ça. Et cette eau dont parle Jésus, c'est bien plus que de la tradition, de la religion. C'est la vie. C'est une vie qui coule et qui comble notre être. Et Jésus vient transcender les traditions, vraiment en amenant la vie, en amenant une eau spirituelle. Au-delà de l'humain, au-delà de la logique, au-delà de ce qui est connu, au-delà de ce qui est fabriqué par l'homme, au-delà des règles, au-delà de la tradition. Et pas juste à l'époque, mais même aujourd'hui. Jésus est là pour transcender les traditions, aller au-delà de la religion, au-delà des querelles de clochers, au-delà de la manière de faire. Il vient amener une eau remplie de vie. La religion et les traditions, ce n'est pas juste des vieilleries d'il y a 500 ans. Mais c'est notre façon de faire habituelle qui nous rassure. Tant dans nos temps personnels avec Dieu qu'ensemble. C'est comme ça que j'aime bien faire. On a toujours fait comme ça. C'est comme ça que j'aime bien prier. C'est aussi rester dans ce qui nous a touchés de Dieu. Les révélations qu'on a eues et tourner en boucle là-dedans. Tu as peut-être une révélation d'un aspect de Dieu il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 2 ans. Tu peux tourner en boucle toute ta vie. C'est ça la religion. Dieu veut nous amener plus loin, au-delà. Et ce qui est fou, c'est qu'il va au-delà de ce que l'être humain s'est construit dans son âme, sa propre religion, des fois avec notre propre manière de voir Dieu et de l'adorer. Et il va même au-delà du physique. Et c'est fou de voir que le nom de la ville, à côté de laquelle se situe ce puits de Jacob, c'est Sichar, qui se prononce d'ailleurs le Y en hébreu, normalement on dit U, donc ça fait Sichar. Vous imaginez, le puits de Jacob est à Sichar. Rien à voir avec notre Jacob Sichar, mais c'est quand même comme ça. Je ne pense pas que Jésus il a trouvé des sugus au fond du puits. Mais ce que je voulais dire, c'est que le nom de la ville, Sichar, qui vient en fait du mot hébreu qui veut dire ivresse, qui vient de ce mot, l'étymologie, qui veut dire boisson forte, boisson, liqueur fermentée, et qui vient même de Shakar, qui veut dire boire à satiété, c'est-à-dire boire jusqu'à ne plus avoir soif. Boire jusqu'à pleine satisfaction, se désaltérer complètement. C'est ça le sens de cette ville. C'est complètement fou, ça. Boire jusqu'à plus soif, comme on dit par chez nous. Et Jésus va révéler qu'il est celui qui donne une eau pleine de vie, d'une eau spirituelle. Et là, Sam, tu peux lancer si jamais l'arrière-fond. Et Jésus va vraiment révéler qu'il est celui qui donne une eau pleine de vie, c'est-à-dire une eau vraiment spirituelle, au-delà des traditions, au-delà de la religion, vers ce puits de Jacob. Et il va dire que si on boit de l'eau qu'il donne, on n'aura plus jamais soif. Et il va le dire alors qu'il se trouve vers une ville qui s'appelle Sichar, et qui veut dire ivresse, boire à ne plus avoir soif, au puits de Jacob qui représente la tradition. C'est quand même dingue, c'est entre guillemets hasard. L'eau que donne Jésus va même au-delà de l'âme, au-delà de la tradition, même au-delà du corps, de la soif et de l'ivresse. C'est une eau spirituelle qui amène la vie, une eau qui amène l'esprit. Et c'est le nom de cette ville qui veut dire qui désaltère complètement. C'est ça le nom de cette ville, qui désaltère complètement. Et c'est à cet endroit-là, à ce puits qui représente la tradition, que Jésus va dire « J'amène une eau, une vie qui désaltère complètement. » Waouh. Et c'est bon, moi j'aime cette eau de vie qui amène une ivresse dans l'esprit. Et l'ivresse physique, vous le savez, elle désinhibe. Elle amène aussi à un état d'exaltation et puis aussi d'autres troubles qu'il n'y a pas besoin de mentionner. Je ne vais pas vous faire un dessin aujourd'hui ici. Mais la même chose, l'ivresse spirituelle qu'amène cette eau pleine de vie, on pourrait dire cette eau de vie, elle va aussi quelque part désinhiber, c'est-à-dire supprimer les barrières et les blocages qu'on peut avoir. Aussi amener un état d'exaltation. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte lorsque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et que les gens disaient qu'ils étaient pleins de vin doux. En fait, ils avaient bu cette eau de vie, cette eau de l'Esprit dont parle Jésus, qui amène comme une ivresse, tellement on est rempli à satiété, on est rempli à plus avoir soif. Et alors là, c'est une belle expérience. Mais tout ce que les gens cherchent dans le monde par la boisson, de se sentir bien dans sa peau, d'aller au-delà des peurs, au-delà de la timidité. C'est pour ça que les gens, souvent, ils boivent un peu en sortant. Mais la vraie vie de l'esprit nous le donne, mais avec une plénitude totale et sans fin. Et je crois vraiment que cette eau de vie de l'esprit, c'est l'antidote à l'anxiété, à la peur, à la timidité, au manque d'assurance et au doute de soi. Cette eau de vie dont parle Jésus, ça comble notre être entier. C'est ça la plénitude. C'est le fait de ne pas boire assez de cette eau dont parle Jésus, c'est-à-dire qu'il y a un manque de plénitude, que ça va laisser de l'espace pour l'anxiété, ça va laisser de l'espace pour la peur, pour le doute dans nos vies. Et avant de poursuivre, j'ai envie de prier par rapport à ça, même si on priera à la fin de ce message, mais j'ai vraiment envie de prier par rapport à ce point. Parce que je suis convaincu que dans cette salle, il y a des gens qui sont touchés par l'anxiété, par la peur, par le doute de soi, qui tu es vraiment, la peur du lendemain. Et je prends autorité maintenant au nom de Jésus contre tout esprit d'intimidation, contre tout esprit d'anxiété et de peur qui finalement amène à la mort au nom de Jésus. Et je veux libérer cette eau, cette vie qui coule et qui va au-delà et qui remplit entièrement l'être intérieur, qui fait que la peur et l'anxiété n'ont plus sa place au nom de Jésus. Fais couler cette source, Seigneur, abondamment. Et viens libérer en nous une soif, une faim et une soif de toi, de boire et de boire encore cette eau pour qu'il n'y ait plus de place à ces peurs, cette anxiété, ces doutes, ces questions qui nous empêchent d'aller de l'avant, ces barrières, cette timidité, tout ce qui nous freine et que tu aimerais qu'on puisse vivre. Donne-nous cette soif. Amen. Mais plus encore que de prendre autorité, plus tu vas boire de cette vie, plus tu vas boire de cette eau, plus tu vas être rempli, moins il y a de place pour toutes ces choses. Et pour faire une parenthèse, cette eau de vie nous libère aussi, d'ailleurs, pour communiquer la vie autour de nous. On a dit que l'ivresse dans l'esprit, ça nous désinhibe. Ça va nous permettre d'aller au-delà de notre timidité, au-delà de nos craintes, et puis de pouvoir parler à l'autre du trésor et de la vie qu'on a trouvé. Parce que ça va nous permettre d'aller au-delà de ces barrières. Et cette eau a complètement touché cette Samaritaine. Elle qui disait au début, « Hé, toi le Juif !» Ensuite, elle disait « Seigneur !» Puis après, elle lui a dit « Prophète !» Et là, au verset 29, elle va annoncer à tout son village qu'elle a rencontré celui qui est peut-être le Messie. Vous voyez son ouverture ? Bref, Jésus révèle qu'il est celui qui donne une eau pleine de vie, une eau spirituelle. Au-delà de ce qui est physique, ivresse, soif, au-delà de ce qui est psychique, tradition, religion, mais une eau qui remplit l'esprit. Et surtout, ce qu'il va dire qui est étonnant, c'est qu'il va donner une eau et on n'aura plus jamais soif, plus jamais soif. Moi, ça me fait bizarre. C'est pour ça que je prêche sur ça aujourd'hui. Parce qu'on parle d'avoir faim et soif de Dieu, et là, il nous parle d'une eau qui nous donne plus jamais soif. Ça paraît contradictoire. On prendra un passage plus tard où Jésus lui-même dit « Mais que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. » Et là, il nous dit que si on boit de cette eau, on n'aura plus jamais soif. Et là, on arrive vraiment au centre de ce que j'ai envie de parler aujourd'hui. Parce que pour moi, il y a une clé. Parce que ce qu'il y a derrière cette contradiction, c'est une clé puissante. C'est une clé puissante que Dieu veut nous donner. Peut-être vous connaissiez cette histoire de la Samaritaine, mais Dieu veut nous parler aujourd'hui. Et on vient maintenant dans le vif du sujet. Parce que Dieu, on est bien d'accord, il nous encourage à avoir soif, de venir à lui pour boire. Comme David l'exprime dans le psaume 42, les versets 2 et 3, il est dit « Mais comme une biche a soif, qu'elle soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ?» Et il y a ce désir qui est saint, qui est juste, de plus de Dieu. On a pu le chanter, le prier aussi pendant la louange, de le voir, de me présenter devant lui. Et la suite du psaume, si on lit la suite, c'est du style « Mais j'ai soif, je suis tellement abattu, sinon je vais mourir. » C'est ça que dit David. Et c'est ça que David dit avec cette biche. Et nous, souvent, on voit cette biche, on a une image comme d'un calendrier chrétien, où on voit une biche d'une façon romantique qui boit à une belle cascade. Il manque juste encore la colombe sur l'arbre. C'est magnifique. Mais en fait, c'est une soif, c'est une question de survie. Une biche pour survivre qui doit absolument trouver un coin d'eau, un ruisseau. Et elle va arpenter les montagnes, les déserts ou les forêts pour désespérément trouver de l'eau. D'ailleurs, ce mot « soupir hein, » qu'elle a, « arag », ça veut dire « halter, soupirer, désirer ardemment ». Il n'y a que deux fois dans toute la Bible ce mot. Et l'autre fois, c'est dans Joël 1, 20, où il est mis « Les bêtes sauvages crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec. » C'est ça, cette soif dont parle le psalmiste. Et c'est avec cette soif-là, avec une question de survie, de mort ou de vie, qu'il va se passer quelque chose dans nos vies. D'ailleurs, le fameux dictionnaire Webster dit que c'est un désir douloureux. C'est douloureux quand tu désires tellement quelque chose que ça devient douloureux pour toi. Et la Bible nous parle encore d'avoir soif dans le psaume 63. Il est dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Et là, soupirer, le mot, ça vient de défaillir. Ou encore Ésaïe 55, où il est dit « Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. » C'est tellement le cœur de Dieu, on en a souvent parlé de ça. Moi, c'est ma vie, moi j'ai soif de Dieu. Qui a soif de Dieu ce matin ici? Amen. Mais là, ce qui est intriguant, c'est que Jésus dit à la Samaritaine, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. » Et ça paraît tellement contradictoire si j'ai plus jamais soif. Ça veut dire que ça voudrait dire quoi? Que j'ai plus besoin de chercher Dieu? De tout mon être, comme cette biche qui est assoiffée? Et moi, la clé, et je crois que c'est le message que Dieu veut nous donner aujourd'hui, c'est le verset qui suit, où il est dit au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Et ce verset, c'est vraiment pour moi la réponse. Et moi, je demandais au Seigneur, en méditant là-dessus, je disais, mais Seigneur, tu nous dis d'avoir soif, alors pourquoi est-ce qu'on n'aurait plus soif? J'ai, dans ce temps de prière, j'ai comme entendu les mots du Seigneur qui me disait, je place une plénitude, une satisfaction. Il n'y a plus la soif de boire autre chose. Si quelqu'un vient boire de l'eau que je lui donne, il a trouvé la source, il a trouvé la vie, il a trouvé comment s'abreuver. Et je place en lui une source. Pas juste une eau qui vient de l'extérieur, qu'il faut aller chercher pour boire, mais une source en lui qui donne la vie. Waouh ! C'est ce que Jésus dit. En d'autres mots, à la Samaritaine, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Cette source donne la vie pour toujours. Et j'ai réalisé que Dieu désirait vraiment nous faire aller encore un pas plus loin ce matin, au prochain niveau. Et le premier niveau, on n'en a pas tellement parlé aujourd'hui, mais c'est quand on est déjà un peu repu de tout ce qu'on connaît. C'est cette pensée qui a été dite aussi pendant la louange de Manu, qui disait, mais des fois, on a l'habitude, on ronronne dans notre vie spirituelle et on n'a pas forcément soif de découvrir de plus de Dieu. C'est un petit peu ça. Quand vous allez, je crois déjà une fois sorti cet exemple, mais quand vous allez au supermarché puis que vous venez d'avoir mangé un grand repas, vous allez faire des économies parce que vous n'allez pas trop mettre dans votre caddie. Il n'y a rien qui vous fait envie. Mais si vous avez faim et puis que vous allez faire vos commissions, là, ça coûte. Hein. Vous aurez envie d'acheter plein de trucs. Cette viande séchée, mais rien que de la voir, tu as presque envie d'ouvrir le paquet. Puis ce fromage, ce brie, il est comme ça tendre. J'ai juste envie de l'acheter avec du pain de baguette. Et puis, tu as juste envie. Tout te fait envie. Puis là, un bon dessert. Tu dis, Et puis, en fait, tu commences à... Parce que tu as faim, tu auras envie de tout acheter le magasin. Vous connaissez ça. D'ailleurs, le proverbe 27 nous dit que celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon du miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Celui qui a faim, il va même piétiner du miel qui est excellent, mais celui qui a faim, il va trouver doux tout ce qui est amer. Et ça, c'est le premier niveau. Si on mange et on nourrit notre âme de plein de choses, on n'aura plus faim, même de ce qui est excellent, le miel. Même quand tu as faim, mais quand tu as faim, tu es prêt à manger de tout. Si tu as faim et soif de Dieu, n'importe quel message, n'importe quelle prédication ou passage biblique va te parler. Mais si ton âme, elle est remplie, elle est repue, et Dieu sait aujourd'hui ce qu'on nous propose à longueur de journée ou de soirée pour remplir notre âme, même un super message ou même un verset où on cite les mots même de Jésus, ça nous passerait par-dessus. Parce qu'on est déjà rassasié et on pourrait fouler le miel de nos pieds. Et le deuxième niveau, donc le premier, c'était de pas forcément avoir vraiment soif. Le deuxième, c'est ce qu'on vient de parler juste avant, c'est d'avoir cette soif. Soif. en ayant soif de la présence de Dieu, faim et soif de plus, on va être abreuvé et nourri. Mais comme là, ça va plus loin que ça quand même. Non seulement d'avoir soif et de chercher à boire à gauche, à droite, mais on pourrait s'arrêter là, on y reviendra. Mais le prochain niveau, le prochain level que Dieu désire pour nous, c'est placer cette source en nous, d'où coule cette vie, d'où coule cette vie. Et ce n'est pas juste une eau de vie, des révélations, de la vie de l'esprit qu'on va chercher ailleurs. Elle est là, elle est personnelle et elle est en nous. Et c'est ça le message aujourd'hui. Et lorsqu'il est parlé, par exemple dans la Bible, du lieu secret, de chercher Dieu personnellement, c'est justement d'être connecté à ce fleuve qui coule en abondance tant pour soi que pour les autres. Alors que je questionnais Dieu, justement en méditant ce moment, ce message, j'entendais ces mots du Seigneur me dire, et ça m'a marqué, je l'ai noté, je vous le redis, on peut toute sa vie arpenter les points d'eau alors que je désire ouvrir une source de vie dans l'esprit de chacun, de chacune. On peut arpenter toute sa vie les points d'eau alors que je désire ouvrir une véritable source de vie dans l'esprit de chacune et de chacun. Pourtant, on nous encourage à avoir soif, à s'abreuver de bonnes choses, mais Dieu veut qu'on puisse aller encore plus loin que ça. Et ça, c'est ce troisième niveau où il y a une source qui est carrément là et qui coule dans notre vie. Alors, c'est vrai qu'il y a une puissance, il y a une force quand le corps, quand l'Église se réunit ensemble. Et l'Église, ce n'est pas une invention ou une institution humaine, c'est le plan de Dieu, c'est lui qui l'a inventé. Et il y a une force quand on est ensemble. C'est pour ça que je suis convaincu qu'on n'a pas juste nos groupes ressources avec l'Église dans les maisons, mais qu'il y a une force quand on se rassemble ensemble et qu'on cherche Dieu, qu'on loue le Seigneur ensemble. Quelque chose se passe. C'est un sujet en soi, ce n'est pas mon thème aujourd'hui, mais l'ensemble et l'Église a une place de choix dans le cœur du Père. C'est l'épouse qu'il a choisie, c'est son amoureuse pour son fils, c'est énorme. Mais le message que je ressens aujourd'hui, c'est autant Dieu agit par l'ensemble, autant il y a cet appel personnel, individuel, à ce que cette source qui coule personnellement vraiment en chacun, personnellement dans ta vie, dans ma vie. Une source qui coule en soi, vraiment. C'est fou. C'est comme si tu as un terrain où tu veux bâtir ta maison, puis tu réalises qu'il y a une source. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher de l'ailleur. Elle vient là. Il y a la source, elle est là, l'eau. Sans arrêt, elle est là. Et je suis convaincu, en gardant à l'esprit l'importance du corps, l'importance de l'Église, de l'ensemble, qu'est le seul moyen, j'en suis convaincu, pour grandir, pour être transformé, on se frotte les uns aux autres, pour planter ses racines et porter du fruit, j'en suis convaincu. Mais je sais que ce que Dieu veut nous faire découvrir, c'est aussi un autre niveau. Pas juste avoir soif, pas juste aller chercher une source à gauche, à droite, pas juste persévérer à arpenter des lieux de source. Et l'offre, elle est tellement toujours plus nombreuse aujourd'hui, dans les séminaires, dans les livres, dans les réunions en présentiel, dans les YouTube. Moi, j'arrive plus à suivre. On m'envoie, ah tiens, super, écoute ce message, ah, puis ci, puis ça. Puis c'est génial, hein, toutes ces choses. Mais c'est mieux si ça vient de toi et en toi, il y a une source qui coule. Alors c'est mieux de se nourrir de ces choses que de séries qui n'ont pas de sens, ça c'est sûr. Mais ce à quoi Dieu désire nous amener, c'est que cette soif et cette persévérance, elles ne soient pas juste dirigées pour arpenter l'offre des lieux de source sur la terre ou sur la toile, même si c'est bon, j'aime aussi le faire, mais que cette source du ciel coule depuis le cœur de Dieu. Elle coule en nous et qu'elle commence à couler à partir de nous. C'est fou ça, en gardant l'importance du corps de l'Église, la façon collective et non individualiste avec laquelle Dieu veut agir dans le monde, ce que Jésus dit, et c'est là que si on vient à lui vraiment, qu'on boit ce qu'il nous donne, qu'on est tellement comblé de lui, qu'on n'a plus soif quelque part d'autre chose que de lui, on ne va plus errer comme une biche à chercher enfin un petit ruisseau d'onction. Ah, là, il y aura quelqu'un, ah, là, il y a de l'onction, là. C'est bien aussi d'entendre d'autres échos et d'autres choses. Mais si l'onction, elle est là, et qu'elle coule ici, et comme une source, elle coule sans fin, comme ces fontaines à eau, ça coule tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est là, ça coule. Et Dieu veut placer cette source en nous, au-delà de juste qu'on ait soif de lui. Et c'est Jeanne Guyon, qui est une femme de l'esprit née il y a un moment, en 1648, qui a vécu une intimité forte avec le Saint-Esprit, qui a dit la chose suivante, « Dieu désire donner, se donner à nous, bien plus que nous le désirons, que nous désirons de lui. Nous devons juste savoir comment le chercher, et c'est plus facile et naturel que la respiration. » Elle axe ensuite sa révélation en disant que Dieu, il n'est pas forcément lointain au ciel, mais il est juste là. Il est juste ici, en nous. Il n'est pas à gauche, à droite ou à tel endroit. Il veut être juste là et couler. Couler, tout simplement. Et Jésus est tellement convaincu de ça qu'il va se lever et crier. Il va crier. Ce n'est pas tout le temps qu'il le fait. Mais dans Jean 7, 37, il est dit, « Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus se tint debout devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » C'est exactement le message de Jésus. Avoir soif, venir à lui, et ça va couler de nous par une source. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on prêche. On l'a souvent aussi dit ici, on a soif de plus de sa présence. Du coup, on va être intentionnel, on va aller vers lui. Ensuite, on va boire, on va s'abreuver. Et le level suivant, Jésus le dit clairement. Comme le dit cette version, parole de vie aussi, « Des fleuves d'eau jailliront de l'être intérieur, de celui qui place sa confiance en moi. » C'est cette source qui coule. Et plus que d'aller chercher de l'eau, il y a quelque chose qui se passe où l'eau, elle jaillit carrément de notre être. Et il te faut un rien de temps chez toi pour que là, tu sois abreuvé. C'est une source qui coule sans fin et sans trop m'étendre. Mais je trouve intéressant, ce verset nous dit que nous sommes le dernier jour d'une fête lorsque Jésus dit ça. Et ce n'est pas par hasard. On est en pleine fête des cabanes, du tabernacle, qui durait 7 jours. Et ce 8e jour, Jésus, c'est là qu'il parle. Et ce 8e jour, c'est une fête de la joie, de la moisson, du souvenir, comment Dieu a pourvu au désert notamment, comment les Israélites vivaient dans des huttes, des cabanes après être sortis d'Égypte. Mais ensuite, dans cette fête qui était comme une tradition, chaque jour de la fête, il y avait un rituel d'eau qui commémore le fait que Dieu a fait jaillir de l'eau du rocher. Quand le peuple d'Israël était en plein désert. Et dans ce rituel, un prêtre descendait à la piscine de Siloé avec une cruche d'or. Il remplissait la cruche de cette source et il remontait au temple, un peu comme une procession festive. Et souvent, ils accompagnaient avec des chants d'Ésaïe qui dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». C'est un peu ça dans cette fête. Et une fois dans le temple, le prêtre versait l'eau sur l'autel et en même temps, il chantait des louanges. En pleine fête, dans cette tradition du prêtre qui descend chercher de l'eau et qui est revenu ce 8e jour, Jésus va se lever et crier « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme le dit l'Écriture. » Comme c'est fort, sur le moment, c'est une bombe. Si on regarde le contexte dans lequel il le dit, c'est une bombe. Et il dit que c'est lui cette eau qui abreuve. Que c'est lui, ce Messie, qui va répandre le Saint-Esprit. Et pour nous aussi, on sait que c'est Jésus, le Sauveur, notre Seigneur. On sait qu'en lui est la vie, qu'en lui est la source. Mais il nous dit aujourd'hui qu'il veut placer cette source en toi et en moi. Mais quelle est la clé pour vivre ça? Quelle est la condition pour que ça se passe? Pour pas juste devoir aller boire à gauche, à droite, mais que ça coule direct de toi et de moi. Et il est mis « celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront. » Et j'ai dit alors « Seigneur, ça veut dire que la seule condition, c'est de croire ?» Oui, mais que signifie croire? C'est croire en moi, c'est croire en ce que je dis, c'est croire en la vie que je propose, c'est croire en mon appel, c'est croire à ma vie. Croire, c'est me suivre. Comme on l'a vu lors du dernier message, c'est embrasser la totalité de qui je suis. Et quand on regarde le mot original de croire, pisteio, ça veut dire penser être vrai, être persuadé, placer sa confiance. Ça vient du mot pistis qui veut dire conviction de vérité en toute chose. Et il y a cette notion de croire totalement, c'est-à-dire pas juste une croyance que Dieu existe sur terre, qu'il existe, qu'il a envoyé Jésus sur terre. C'est magnifique, c'est le chemin de la vie. Mais c'est croire à une vérité. C'est plus que croire à une vérité. C'est croire totalement, dans le sens de croire à toute épreuve. Mais c'est aussi de faire confiance. Et faire confiance, c'est confier sa vie en celui en qui on croit. Celui qui fait pour la première fois du parapente, il va croire en la toile, dans les cordes qu'elles vont tenir, j'espère, dans les attaches. Ça, c'est des vérités. Mais surtout, il va croire au moniteur dans son vol biplace qu'on fait en général, avec qui il va faire le saut. Mais s'élancer de la montagne, c'est croire en faisant totalement confiance au moniteur. C'est comme on met notre destin dans la vie du moniteur. On croit dans des vérités, la toile, les cordes, mais on se fait confiance à la personne avec qui on va s'élancer. C'est une confiance totale. Tu lui laisses les commandes au moniteur. Et croire en Jésus, c'est plus que croire à des vérités. C'est plus qu'une croyance. C'est s'abandonner et lui faire confiance totalement. En sachant qu'on ne va pas s'écraser. On croit totalement en Jésus, qu'on lui laisse les commandes de notre vie. Et qu'est-ce que nous dit la Bible ? Que croire ainsi, ça débloque une source. Ça débloque une source. Croire pleinement en Jésus, ça libère une source qui coule de nous. Une source qui coule en nous, c'est un truc vraiment de fou. C'est comme les gens qui n'auraient pas d'eau courante, puis tout à coup ils ont l'eau courante chez soi. Où je dois toujours aller chercher, je ne sais pas où, écouter des choses, ou absolument mettre ceci, écouter tel message, mettre tel chant préféré que j'ai, pour qu'enfin je ressente de l'onction. Non, ça va couler, j'aurai l'eau courante de l'esprit en moi. Une source de vie qui coule directement de notre être. Et c'est ce que Jésus dit à la Samaritaine, qui est tellement fort. Et ça veut dire que cette source ne se tarit jamais, qu'elle n'a pas de fin. Elle coule sans cesse, elle ne s'arrête jamais de couler. Elle amène une vie surnaturelle. Quand je dis surnaturel, ce n'est pas juste dans le sens de spectaculaire. Ça peut, mais au-delà du naturel. Et le naturel, c'est quoi ? C'est la fatigue, la lassitude, le manque, tout ce que produit un manque d'eau. Et au final, c'est même la mort spirituelle, un manque d'eau, de vie. Mais la Bible nous montre que cette source d'eau, elle jaillit éternellement. Et la Bible nous parle de différents effets de une telle source en nous. J'ai bientôt terminé, mais j'aimerais vous dire juste encore les effets. Quand la source coule, qu'est-ce que ça nous fait ? Et comme on le connaît, cette source, avec ce psaume 23 qui nous dit que ça nous restaure notre âme, ça amène une restauration, ça touche notre être entier. C'est de ça dont parle Jésus, qui amène cette source qui nous restaure à gogo. Ça te donne, ça te fortifie. Ou Ézéchiel 36 qui nous dit que cette eau, elle nous purifie. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et t'es là, des fois on pourrait vouloir demander pardon 82 fois à la suite au Seigneur. Mais cette eau est là, elle te purifie. Ça ne nous empêche pas de demander pardon au Seigneur. Mais cette eau, elle te purifie. Je vous donnerai un cœur nouveau, dit Ézéchiel 36. Cette eau t'amène la vie. Ézéchiel 47 nous dit qu'il sortait du trône de l'eau et partout où passera le torrent, tout être vivant vivra. Et imaginez ce passage de l'Ancien Testament où l'eau, elle coule. Il y a une source qui sort du trône de Dieu. Et là, Jésus dit que cette source, il veut qu'elle coule de ton cœur, de ton esprit. D'ailleurs, ce passage d'Ézéchiel 47, c'est un message en soi. Mais il est dit qu'à un moment donné, plus l'eau monte, c'est là qu'on commence à voir les arbres et c'est là qu'on commence à avoir du fruit. Et si on désire voir du fruit dans nos vies, il faut que cette source coule en abondance. Les fruits en abondance. Et c'est ce qu'il est même dit au verset 8, ce torrent coule. Quand il arrive à la mer, il transforme son eau qui devient bonne. Et au verset 9, partout où le torrent arrivera, tous les êtres vivants pourront vivre et se reproduire. Il y aura beaucoup de poissons. Et s'il y a cette source qui coule dans notre vie, on va se multiplier. D'autres vont trouver la vie. Si cette source coule dans l'Église, il y a une multiplication et beaucoup de poissons. Et si le fleuve coule véritablement, la vie de l'esprit va se manifester et les poissons vont être là en nombre. Et le groupe louange, vous pouvez déjà venir, parce que j'ai bientôt terminé. Mais prenons Apocalypse encore 22, versets 1 et 2. C'est une vision prophétique qui est révélée à Jean, où il est dit « Puis il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Il produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et des feuilles de l'arbre serviraient à la guérison des nations. Et le fleuve de vie, cette source que Dieu veut placer en nous, elle amène cette fécondité spirituelle. Elle amène cette fécondité spirituelle. Cette source que Dieu veut faire couler, elle va produire du fruit au-delà des saisons, au-delà des saisons naturelles de notre vie. Des fois, on a l'impression, c'est le printemps, il y a tout qui pousse tout seul. Tout ce qu'on fait, tout, c'est pas fatigant, tout va bien. Et puis d'autres fois, ben, c'est l'été, les choses s'établissent dans nos vies. Et puis des fois, c'est l'automne, puis on a l'impression un peu de perdre les dons qu'on avait reçus, les fruits qu'on avait. On a l'impression d'avoir un peu moins qu'avant. Et puis pire, des fois, c'est l'hiver. Mais ce fleuve amène qu'à chaque saison de notre vie, ce fruit y pousse. Et cette eau, elle pousse sans arrêt. Et moi, si j'arrosais mon jardin tous les jours, il serait vert, sans arrêt. Et c'est cette source. C'est pour ça qu'il nous amène près des eaux paisibles, des verts pâturages. S'ils sont verts, les pâturages, c'est parce que la source, elle est là constamment. Et lorsque cette source est là, ton humeur, ta vie spirituelle ne va pas dépendre des aléas des saisons, c'est-à-dire des circonstances extérieures, ou bien de ce que les autres vont t'amener plus ou moins comme bonne eau. Mais ça va te permettre d'être au-delà de ça, de porter du fruit malgré tout. Et ce matin, Dieu veut nous faire réfléchir et veut nous rafraîchir par rapport à ceux peut-être qui sont lassés, qui sont asséchés, comme ça a été dit notamment aussi dans la louange. Ce fleuve qui purifie, qui donne la vie, il est là. Je suis convaincu, il coule dans cette salle. Mais surtout, il veut nous donner une faim et une soif de croire totalement afin de débloquer cette source en moi, en toi. Et découvrir cette source qui coule en soi, c'est plus que de la chercher à gauche, à droite, mais elle coule carrément de toi. Tu serais tout seul sur une île, sans rien, cette eau coulerait et tu serais abreuvé dans l'esprit, connecté à Dieu. Même si Dieu, j'ai dit, il aime l'Église, le corps, le groupe, mais c'est pour dire qu'il veut placer cette source dans ton être. Apocalypse 21, 6 nous dit « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Et ce matin, premièrement, Dieu veut nous donner soif. Si on a perdu cette soif, il veut nous donner vraiment cette soif de lui. Que comme dans ce magasin, on a envie de tout acheter. Et c'est bien vu parce que c'est gratuit, on a vu. Et deuxièmement, je crois que ce qu'il veut, c'est nous abreuver, nous restaurer, nous guérir, nous purifier, nous toucher, nous aimer, nous guérir. On a vu tout ce que fait ce fleuve, c'est extraordinaire. Et troisièmement, et c'est là que Dieu nous parle ce matin, il veut débloquer cette source dans ta vie. Que tu sois dépendant de rien, mais que cette source soit débloquée dans ta vie. Moi, j'ai envie que cette source soit là. J'ai envie que j'ai juste à chercher Dieu là où je suis pour que je trouve cette eau. Et comme disait cette femme de prière, de piété, Jeanne Guyon, elle est juste là en toi, c'est plus près qu'on ne le pense. Dieu est juste là en toi et il veut débloquer cette vie. Et j'entendais le Saint-Esprit me dire, et on va terminer tantôt par ces mots, c'est parce qu'il y a une telle abondance de vie que je désire vous faire vivre. Si vous saviez, vous courriez vers cette vie totale pour moi. Venez et goûtez combien le Seigneur est bon. Si tu viens goûter à ma présence, tu vas voir à quel point ce que tu vas laisser en arrière pour me suivre n'est rien. Viens à la source, viens boire, crois totalement et je vais placer en toi une source de vie. Une rivière de vie va jaillir de ta vie. Non seulement tu n'auras plus jamais soif d'autre chose, mais les gens vont venir vers cette source qui est en toi et tu vas abreuver, rafraîchir, amener la vie autour de toi. Alléluia. Et avant que je prie, parce que j'ai vraiment envie de prier pour qu'il y ait un déversement de cette source, j'aimerais donner la possibilité ce matin à toute personne qui n'a encore jamais dit à Dieu, je crois en toi et je crois, Jésus, que c'est vrai. Je crois que ce que dit la Bible, c'est vrai. Je crois que ce que le bonhomme là devant, il dit, c'est vrai. Je crois que Jésus est vivant. Je crois qu'il a donné sa vie pour moi. Et s'il y a quelqu'un ici qu'il n'a jamais, peut-être que dans ton cœur tu crois plus ou moins, mais qu'il n'a jamais exprimé publiquement, qu'il n'a jamais dit « oui, je veux croire », lève juste ta main là où tu es et dis « oui, je veux croire, je veux suivre le Seigneur, je veux croire que c'est vrai, je crois que Dieu est vivant, je crois que c'est vrai, je ne l'ai jamais dit ». Et s'il y a quelqu'un ce matin qui veut juste le montrer, c'est en toi le Seigneur. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui veut le faire, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre ? Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Et avant qu'on aille plus loin, je propose un tonnerre d'applaudissements pour une personne qui aujourd'hui a manifesté publiquement qu'il croyait en Jésus. Applaudissons le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que c'est la fête au ciel pour une seule personne qui choisit de te suivre. Et il y a une telle vie, c'est glorieux de le manifester publiquement. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jérémie 33, 6 nous dit « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Alléluia. Et je crois que ce matin, Dieu veut nous donner soif, il veut nous abreuver, il veut débloquer une source en nous. Et je crois que j'aimerais qu'on puisse, on va prendre, je pense qu'on va prendre un chant. Et à la suite de ce chant, on va faire un appel. Même si pendant ce chant, tu veux t'avancer. On va prendre un chant, si j'ai reconnu le thème musical, qui va parler de ce fleuve qui va jaillir de nos vies, qui va nous toucher puissamment. Et Dieu désire non seulement te donner, peut-être que tu dis, j'ai pas trop soif, je veux avoir plus de soif, je veux avoir plus soif de Dieu. Peut-être que tu dis, mais moi j'ai soif, mais j'ai besoin d'être abreuvé, j'ai besoin de plus. Ou peut-être que tu te dis, mais moi j'ai soif de Dieu. Quand je cherche Dieu, Dieu me parle, me nourrit, c'est glorieux. Mais j'aimerais que cette source, elle coule avec infini en moi. J'ai envie de débloquer cette source dans ma vie. Et comme la personne qui fait du parapente, je veux me confier ma vie entièrement à Dieu. Je veux croire entièrement et j'aimerais cette source. Je ne veux pas juste dépendre des médias extérieurs. Je veux cette source à gogo. Je veux cette source qui coule sans arrêt. Je veux ce robinet de vie dans ma vie. Alléluia. Et tu pourras aussi t'approcher. Mais prenons ce chant. Et puis ensuite, ou pendant ce chant, approche-toi. Et que ça puisse aussi être notre réponse et notre prière au Seigneur.